Chapitre 15, Sola Scriptura et Ellen G. White, Perspective historique. Alberto Ertim. Les adventistes du septième jour ont toujours souscrit au principe protestant Sola Scriptura, l'écriture seule. Dès 1847, James White déclara que la Bible était la révélation parfaite et complète et la seule règle de foi et de pratique. Le point 3 du document de 1872 intitulé « A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by the Seventh-day Adventists » Déclaration des principes fondamentaux enseignés et mis en pratique par les adventistes du septième jour, était celui-ci. Les saintes écritures, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, qui nous ont été donnés par l'inspiration de Dieu, contiennent la révélation complète de sa volonté pour l'homme et sont une règle de foi et de pratique infaillible. En 1884, Ellen White ajouta « Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. » Ceci étant dit, les adventistes considèrent également que les écrits d'Ellen White sont une manifestation du véritable don de prophétie. Mais certains de leurs détracteurs affirment que le fait d'accepter ces écrits n'est pas compatible avec le principe sola scriptura auquel ils affirment adhérer. Can Wright, qui a de tout temps été l'un de ses détracteurs, alla jusqu'à dire que les adventistes du septième jour avaient une autre Bible, les écrits d'Ellen White, et qu'ils devaient lire notre ancienne Bible à la lumière de cette nouvelle Bible. Dale Ratzlaff, un autre détracteur virulent, déclara que les adventistes du septième jour avaient deux sources d'autorité, deux sources de vérité, la Bible et les écrits d'Ellen White, et qu'ils mettaient les deux sur le même plan. Certaines études ont été publiées pour répondre à ces critiques, mais il est utile de préciser à nouveau quel est le lien entre le principe sola scriptura et les écrits d'Ellen G. White selon une perspective historique plus large. Cette étude présente certains concepts fondamentaux en lien avec 1. L'affirmation de l'Église catholique romaine selon laquelle elle seule peut interpréter l'écriture, 2. La réaction protestante avec le principe sola scriptura, 3. De nouveaux principes herméneutiques contraires à ce principe, 4. L'accent mis par Ellen White sur le principe sola scriptura, et 5. La façon dont elle l'utilisait dans son interprétation de l'écriture. Ces concepts peuvent permettre de comprendre le rôle que joua Ellen White en insistant sur le principe sola scriptura en cette période de la fin des temps. L'Église catholique romaine, seule capable d'interpréter l'écriture, le christianisme post-apostolique perdit une partie de son identité basée sur la Bible sous l'influence païenne de la culture gréco-romaine. On peut citer par exemple la méthode allégorique alexandrine d'interprétation biblique, selon laquelle l'interprétation de l'écriture était basée sur l'intention de l'auteur plutôt que sur une approche littérale du texte. Cette méthode donna à de nombreux interprètes chrétiens toute latitude pour adapter l'écriture à la culture dont ils étaient issus. Ce nouveau principe herméneutique commença à altérer plusieurs doctrines bibliques du christianisme. Cette méthode allégorique aurait pu inciter l'Église chrétienne à proposer diverses interprétations de l'écriture et, par conséquent, son identité chrétienne aurait pu disparaître. Mais l'Église de Rome profita de la subjectivité herméneutique relative à cette méthode et du contexte sociopolitique de l'Empire romain pour affirmer être seule capable d'interpréter correctement l'écriture. Progressivement, de nouvelles traditions apostoliques non bibliques modifièrent les méthodes d'interprétation et les enseignements de l'Église. Saint Augustin affirma même « Pour ma part, je crois à l'Évangile tel qu'il est présenté par l'autorité de l'Église catholique. » Thomas d'Aquin affirma aussi que « l'objet formel de la foi était la vérité première manifestée dans les saintes écritures et les enseignements de l'Église, qui relèvent de la vérité première ». Plus tard, lors de sa quatrième session, le Concile de Trente déclara que toutes les vérités relatives au salut et toutes les règles de conduite étaient contenues dans les livres écrits et les traditions non écrites préservées par l'Église catholique. C'est la Sainte Mère qu'est l'Église qui a toute autorité pour juger le sens véritable et l'interprétation des Écritures. Par conséquent, les intérêts ecclésiastiques prirent le pas sur la fidélité à la parole de Dieu, ce qui contribua à développer une tradition herméneutique non biblique. Déjà au Moyen-Âge, les précurseurs des réformateurs tels que John Wycliffe, Jean Hus, Jérôme de Prague et l'Église évangélique vaudoise essayèrent de restaurer l'autorité de l'Écriture sur les traditions et les décisions ecclésiastiques. Même si elles furent limitées, ces tentatives ouvrirent la voie à la grande réforme du XVIe siècle. Réaction protestante. Le principe sola scriptura. La réforme du XVIe siècle fut avant tout une réforme herméneutique qui donna lieu à une réforme ecclésiastique. L'un des principes de la réforme était donc sola scriptura, qui impliquait 1. La reconnaissance théorique de l'écriture comme seule règle de foi et de pratique dans le domaine religieux, et 2. La mise en application pratique de ce principe dans l'interprétation de l'écriture. Concernant la perspective théorique, Luther déclara clairement « Ainsi, l'écriture est sa propre lumière. Il est bien que l'écriture s'interprète par elle-même. » À la Diète de Worms, 1521, Luther affirma qu'il n'acceptait pas l'autorité des papes et des conciles, car il se contredisait. Sauf s'il était convaincu par le principe sola scriptura et un véritable raisonnement, il ne changerait pas d'avis. Jean Calvin affirma de façon plus explicite « Ceux qui sont réellement inspirés par l'Esprit se fient à l'Écriture » et « L'Écriture démontre sa propre authenticité. Ainsi, il n'est pas bien de la soumettre à des preuves et des raisonnements. » De la même façon, l'article 6 des 39 articles de l'Église d'Angleterre, 1571, dit ceci « Les saintes Écritures contiennent tout ce qui est nécessaire au salut. Ainsi, tout ce qui ne s'y trouve pas ou tout ce qui ne peut pas être démontré dans les Écritures n'est pas requis de quiconque et ne doit pas être considéré comme une déclaration de foi ou un critère de salut. » Cependant, d'un point de vue pratique, les réformateurs magistériels n'utilisèrent pas le principe sola scriptura pour rejeter toutes les autres sources religieuses. Non seulement Luther accepta les premiers credos œcuméniques et beaucoup de choses venant des pères de l'Église, mais il écrivit aussi le Petit Catéchisme, 1529, et le Grand Catéchisme, 1529. De même, Calvin écrivit ses célèbres Institutions de la religion chrétienne, 1536, revu en 1559, et son propre Catéchisme, 1538. Beaucoup d'autres articles de foi furent rédigés, présentant diverses croyances et nuances protestantes. De plus, contrairement à Zwingli et Karlstadt, qui rejetaient tout ce qui n'était pas confirmé par la Bible, Luther avait tendance à accepter ce que la Bible n'interdisait pas. Considérant que « tout ce qui n'est pas contre l'Écriture est conforme à l'Écriture », Luther conserva plusieurs éléments de la messe dans son modèle liturgique. Différentes tentatives furent faites pour définir le lien entre les Écritures inspirées et les déclarations et les écrits chrétiens non inspirés. Par exemple, le document intitulé « Formula of Concord, Solid Declaration » 1577 évoquait une autorité triple, à savoir 1. Les écrits prophétiques et apostoliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont le seul critère ou la seule norme permettant de juger les enseignants et les doctrines, 2. La véritable doctrine chrétienne, reposant sur la parole de Dieu et résumée par les trois credos, le credo des apôtres, le credo de Nicée et le credo d'Athanase, et les articles doctrinaux ainsi que les déclarations de foi luthérienne. Et 3. D'autres livres bons, utiles et saints, des interprétations des saintes Écritures, des articles réfutant les erreurs et des articles doctrinaux. Luther mettait l'accent sur l'autorité inconditionnelle de l'Écriture comparé à l'autorité relative et conditionnelle des théologiens de l'Église. Les traditions de l'Église, qui s'avéraient être basées sur l'Écriture et les credos œcuméniques, avaient une autorité secondaire, parce qu'ils étaient conformes à l'Écriture. Par conséquent, selon la perspective protestante, un credo n'est qu'une norma normata, une règle de foi secondaire, ayant seulement une autorité ecclésiastique et donc relative, dépendant de son degré de conformité avec la Bible, qui est la norma normans, la règle de foi première. Certains théologiens considèrent ce que l'on appelle le quadrilatère wesleyen comme une tentative tardive des évangéliques de remettre en question le principe protestant sola scriptura, attribuant à l'écriture, à la tradition, à la raison et à l'expérience le même niveau d'autorité. Mais Thorsen souligne qu'un tétraèdre, autrement dit un objet plat ayant quatre faces triangulaires formant une pyramide, représenterait mieux la théologie de John Wesley. L'écriture serait le fondement de la pyramide, et les trois autres faces seraient la tradition, la raison et l'expérience, qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas les sources primaires de l'autorité religieuse. Selon cette analogie, l'écriture serait toujours le critère permettant d'évaluer la validité des autres sources. Cependant, Alistair E. McGrath affirme que la seule branche de la réforme qui mit en pratique le principe sola scriptura de façon cohérente fut la réforme radicale, soit l'anabaptisme. Mais même les anabaptistes qui acceptaient les sept articles de la confession de Schleitheim, 1527, ne firent pas grand-chose pour restaurer les vérités bibliques en faisant référence au principe sola scriptura. Ainsi, la devise « l'Église réformée » toujours réformé selon la parole de Dieu, Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei, reste le but constant de ceux qui veulent poursuivre le processus de restauration qui fut initié par la réforme protestante. Sola scriptura, de nouveaux principes herméneutiques. Plusieurs tendances herméneutiques émergèrent après la réforme et commencèrent à faire de l'ombre au principe sola scriptura et à l'interprétation historiciste des prophéties bibliques. L'une de ces tendances était l'approche futuriste et prétériste de l'Église catholique romaine en réaction à l'identification historiciste de la petite corne qui s'agrandit beaucoup, Daniel 7, versets 7 à 27, 8, versets 9 à 14, de l'Antichrist, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, et de la bête montant de la mer, Apocalypse 13, versets 1 à 9, à la papauté. Selon l'ouvrage de Robert Bellarmine, Disputationes, 1581 à 1593, et le commentaire de Francisco Ribera sur le livre de l'Apocalypse, 1591, ces entités apocalyptiques devaient apparaître uniquement dans un avenir lointain. En revanche, dans son interprétation du livre de l'Apocalypse, 1614, Luis del Alcázar établit un lien entre ces entités et la période des apôtres. Étonnamment, à la fois l'approche futuriste et l'approche prétériste furent bien accueillies dans les cercles protestants et évangéliques qui finirent par les adopter. Ainsi, les éléments prophétiques de l'Écriture étaient associés soit à un avenir lointain, soit à un passé ancien, mais leur lien avec le présent ne semblait plus être d'actualité. Cependant, après la réforme, aucun principe herméneutique n'altéra autant le principe sola scriptura que la méthode historico-critique venant de la période des Lumières. Les études de théologiens rationalistes allemands tels que Johann S. Semler, Julius Wellhausen, Ernst Troeltsch et plus tard Rudolf Bultmann remirent en question l'historicité du texte de Genèse 1 à 11, réfutèrent l'idée que Moïse était l'auteur du Pentateuque, rejetèrent la nature prédictive des prophéties bibliques et balayèrent les miracles de la Bible. La Bible était considérée comme une mosaïque culturelle ancienne et par conséquent, le principe sola scriptura était vu comme une façon très naïve d'étudier la Bible. Arthur T. Pierson souligna que, comme l'Église catholique romaine, la méthode historico-critique privait quasiment les gens ordinaires de la Bible en sous-entendant que seuls les théologiens pouvaient l'interpréter. Rome mettait un prêtre entre l'homme et la parole, mais cette méthode mettait un interprète entre le croyant et la Bible. Plaçant la raison humaine à la base de toute chose, la méthode historico-critique associait le principe sola scriptura à celui de sola raison. L'autre tendance herméneutique majeure qui remit en question le principe sola scriptura fut le futurisme dispensationnel, notamment avec Nelson Darby, 1800 à 1882. Ayant adopté une lecture littérale de la Bible, Darby finit par séparer l'Église et Israël, par faire la distinction entre diverses dispensations de l'histoire sainte et par évoquer un enlèvement de l'Église qui aurait lieu avant la période de tribulation précédant le retour du Christ. Du fait qu'il remit en cause l'unité de la Bible, Le principe sola scriptura et ses principes théologiques corollaires, ainsi que l'analogie de l'écriture, ne pouvaient plus s'appliquer de façon cohérente à la Bible. Ainsi, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le christianisme protestant et évangélique fut remis en question par les écoles futuristes et prétéristes d'interprétation de l'Église catholique romaine, par la méthode historico-critique et par le futurisme dispensationnel de Darby. Dans tous ces courants, un principe humain prenait la place de la Bible, altérant ainsi le principe sola scriptura. Au cours du XXe siècle, plusieurs principes herméneutiques socio-scientifiques allaient apparaître, remettant davantage en cause le principe sola scriptura. L'attachement d'Ellen White au principe sola scriptura. Au cours du XIXe siècle, de nombreux acteurs du restaurationnisme et des mouvements de réveil insistèrent sur la nécessité de redécouvrir les enseignements de l'Église apostolique. Mais aucun mouvement religieux de l'époque ne mit en application le principe sola scriptura de façon aussi cohérente que les adventistes sabbatistes, les fondateurs de l'Église adventiste du septième jour, qui voulaient retrouver le sens des vérités bibliques. Le ministère exercé par Ellen White joua un rôle majeur dans ce domaine, car celle-ci désirait encourager les gens à comprendre que la Bible s'interprète par elle-même et non remplacer la Bible ou modifier ses enseignements comme certains de ses détracteurs l'affirmaient. Ceci apparaît clairement dans les conseils qu'elle donne sur la façon d'interpréter la Bible et dans la manière dont elle-même l'interprétait. Ellen White considérait que la question de l'interprétation de la Bible était cruciale dans le cadre du grand conflit entre le bien et le mal. Elle expliquait que Satan n'aspirait qu'à détruire la confiance placée en Dieu et sa parole. Au Moyen-Âge, par exemple, il était interdit de faire circuler des Bibles, et des prêtres et des prélats sans principe interprétaient les enseignements bibliques de façon à justifier leurs affirmations. Sans évoquer les méthodes d'interprétation futuristes et prétéristes, Ellen White adhérait à l'interprétation protestante historiciste, identifiant la petite corne de Daniel 7, versets 8, 11, 21, 22, 24 à 26, 8, versets 9 à 14, ainsi que l'Antichrist de 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, et la bête montant de la mer d'Apocalypse 13, versets 1 à 9, à la papauté. Elle considérait aussi que les jours symboliques d'Apocalypse 11, versets 3 et 12, versets 6, voire Daniel 7, versets 25, Apocalypse 11, versets 2, 12, versets 14 et 13, versets 5, représentaient la période de la suprématie papale allant de 538 à 1798. D'un autre côté, Ellen White expliquait aussi ceci. La Bible est battue en brèche par la haute critique, la méthode historico-critique et les hypothèses scientifiques autant qu'elle l'était au temps du Christ par la tradition et le rabbinisme. Elle déclara « L'œuvre de la haute critique, en disséquant, en conjecturant, en reconstruisant, détruit la foi dans l'inspiration de la Bible. C'est priver la parole de Dieu de son pouvoir de diriger, d'élever, d'inspirer les vies humaines que de professer de telles théories. » S'opposant à la théorie du dispensationalisme consistant à distinguer plusieurs dispensations, généralement sept, dans l'histoire biblique, Ellen White parlait de deux dispensations, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, associées l'une à l'autre par un lien typologique. Elle déclara « Il n'y a pas, comme on l'entend si souvent, une opposition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la loi de Dieu et l'Évangile du Christ, entre les critères de la dispensation juive et ceux de la dispensation chrétienne. Toutes les âmes sauvées dans la première dispensation furent sauvées par le Christ de la même façon que nous sommes sauvés aujourd'hui. Les patriarches et les prophètes étaient chrétiens. La promesse de l'Évangile fut faite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand ils ont été séparés de Dieu du fait de leur transgression. L'Évangile fut prêché à Abraham. Les Hébreux burent tous l'eau du rocher spirituel, qui était le Christ. » Reconnaissant l'existence de différents niveaux de développement dans la révélation de Dieu afin de répondre aux besoins des êtres humains à différentes époques, Ellen White affirmait que dans les deux dispensations, les demandes de Dieu étaient identiques et que les principes relatifs à sa façon de gouverner étaient similaires. L'Ancien Testament est l'Évangile expliqué à l'aide de chiffres et de symboles, le Nouveau Testament et la substance. Le premier est aussi important que le deuxième. Ellen White expliquait que le quatrième commandement au sujet du sabbat, Exode 20, versets 8 à 11, voire 31, versets 12 à 18, Deutéronome 5, versets 12 à 15, Luc 23, versets 54 à 56, Hébreux 4, versets 4, 9 à 11, Apocalypse 14, versets 7, 12, étaient la grande vérité unissant les deux dispensations, la dispensation mosaïque et la dispensation chrétienne, la lumière du sanctuaire faisant le lien entre les deux. Non seulement Ellen White exprima son désaccord concernant les principes herméneutiques présentés ci-dessus, mais elle ne cessa d'indiquer qu'elle souscrivait au principe sola scriptura. En disant que la Bible s'interprétait par elle-même, elle précisa quelques concepts. Le premier est que la Bible doit être étudiée dans le cadre du grand conflit cosmique et historique entre Dieu et Satan. Elle déclara « La Bible est son propre interprète. Ce n'est qu'à l'écriture que l'on peut comparer l'écriture. Celui qui l'étudie doit apprendre à considérer la parole de Dieu comme un tout et à voir les relations qui existent entre ses différentes parties. Il doit apprendre à connaître le thème central du Saint-Livre, le plan originel de Dieu pour le monde, la montée du grand conflit, l'œuvre de la rédemption. Il doit comprendre la nature des deux forces qui se combattent, apprendre à en relever l'empreinte dans les récits de l'histoire et de la prophétie, jusqu'à l'accomplissement de toute chose. Il doit voir que cette lutte se poursuit à tous les instants de l'expérience humaine, que dans chacun de ses actes, il agit lui-même selon l'une ou l'autre de ses forces antagonistes, et qu'à chaque instant, il choisit son camp, qu'il le veuille ou non. L'équilibre entre l'étude exégétique d'un passage donné et son interprétation à la lumière de l'analogie de l'écriture est un autre concept important. Elle écrivit « On ne tire que peu de bien d'une lecture hâtive. On peut lire la Bible tout entière, sans en apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification profonde, qui reste cachée au lecteur superficiel. Un passage étudié et médité, jusqu'à ce qu'on en ait bien saisi la signification et les rapports avec le plan du salut, vaut mieux que la lecture de plusieurs chapitres, faite sans but arrêté et sans qu'on en ait tiré aucun enseignement positif. » Elle mit l'accent sur l'analogie de l'écriture en déclarant « La Bible est son propre interprète. Un passage des Écritures servira de clé d'accès à d'autres passages, faisant apparaître le sens caché d'un mot. En comparant différents textes traitant du même sujet, en étudiant leur portée sous tous les angles, on mettra en évidence la véritable signification des Écritures. De nombreuses personnes pensent devoir consulter des commentaires des Écritures afin de comprendre la parole de Dieu, et je ne veux pas dire qu'il ne faut pas agir ainsi. Mais il faut faire preuve d'un grand discernement pour découvrir les vérités divines dans les écrits des hommes. Les joyaux de la vérité sont disséminés dans l'ensemble de la révélation, mais ils ont été enfouis sous les traditions, les déclarations et les préceptes humains. La sagesse du ciel est pratique commune, ignorée. Satan a réussi à faire croire que les paroles et performances des hommes sont d'une grande valeur. Ellen White déclara à plusieurs reprises que l'analogie était une bonne méthode. La Bible est son propre interprète. Un passage en explique un autre. En comparant les écritures qui traitent d'un même sujet, vous découvrirez une beauté et une harmonie auxquelles vous n'aviez jamais songé. En gardant ces concepts à l'esprit, nous allons désormais voir de quelle façon elle utilisait le principe sola scriptura pour interpréter la Bible. Ellen White et l'usage du principe sola scriptura. Le fait qu'Ellen White n'ait pas fait d'exégèse du texte biblique ne devrait pas nous inciter à remettre en question la façon dont elle interprétait la Bible. En effet, elle l'abordait de façon prophétique, présentant dans bien des cas les motivations profondes des personnages bibliques et les luttes auxquelles ils étaient confrontés. De plus, ses explications étaient conformes au principe sola scriptura dans la mesure où elle laissait la Bible s'interpréter par elle-même. De nombreux détracteurs de la Bible remettent en question l'historicité de Genèse 1 à 11 et réfutent la dimension miraculeuse de ces chapitres. Cependant, la position d'Ellen White était conforme à celle des prophètes bibliques, qui confirmèrent l'historicité et la fiabilité de ces récits. Par exemple, l'historicité du récit de la création, Genèse 1, 2, fut confirmée par d'autres textes de l'Ancien Testament, Psaume 33, versets 6 à 9, 94, versets 9, 95, versets 4, 5, 121, versets 2, 136, versets 5 à 9, 146, versets 5, 6, 148, versets 1 à 5, Ésaïe 40, versets 26, et du Nouveau Testament, Actes 17, versets 24 à 26, Colossiens 1, versets 15, 16, Hébreux 4, versets 4, 10, Apocalypse 14, versets 7, ainsi que par Ellen White. Plusieurs passages bibliques, Romains 5, versets 12, 14, 18, 19, 2 Corinthiens 11, versets 3, Apocalypse 12, versets 9, confirment que le récit de la chute d'Adam et Ève dû au serpent, Genèse 3, doit être lu de façon littérale, et Ellen White déclara la même chose. L'Ancien Testament, Psaume 104, versets 6 à 9, et le Nouveau Testament, Matthieu 24, versets 37 à 39, Hébreux 11, versets 7, 1 Pierre 3, versets 20, 2 Pierre 2, versets 5, 3, versets 6, confirme que le récit de Noé et du déluge, Genèse 6 à 8, doit être lu de façon littérale, tout comme Ellen White. De la même façon, la destruction de Sodome et Gomorre est comprise de façon historique par l'Ancien Testament, Deutéronome 29, versets 23, Ésaïe 13, versets 19, Jérémie 49, versets 18, 50, versets 40, Amos 4, versets 11, et le Nouveau Testament, Luc 17, versets 28, 29, 2 Pierre 2, versets 6 à 8, Jude, versets 7. Et Ellen White l'interprétait de la même façon. L'historicité des miracles relatifs à l'Exode et à la traversée du désert fut confirmée par d'autres passages non seulement de l'Ancien Testament, Psaume 66, verset 6, 78, verset 10 à 55, 105, verset 26 à 45, 106, verset 7 à 33, 136, verset 10 à 16, Malachie 4, verset 4, mais aussi du Nouveau Testament, Actes 7, versets 17 à 44, Hébreux 11, versets 22 à 30, et Ellen White alla aussi dans ce sens. D'après Jésus, Matthieu 12, versets 39 à 41, et Ellen White, l'histoire de Jonas se déroula comme l'indique la Bible, Jonas 1, versets 17, 2, versets 10. Contrairement à ceux qui voulaient découvrir le Jésus historique, Albert Schweitzer, et démystifier les quatre évangiles, Rudolf Bultmann, Ellen White considérait que les récits des évangiles et les miracles étaient historiques. Son livre « The Desire of Ages » 1898, « Jésus-Christ » est basé sur la façon dont Jésus et son ministère sont décrits dans les évangiles canoniques et donne beaucoup d'explications sur ces récits. Ce livre est un bon exemple de son adhésion au principe « sola scriptura » et de la façon dont elle l'utilisait pour étudier et commenter la Bible. Conclusion. Il faut rappeler que tous ceux qui lisent la Bible en adoptant une autre approche herméneutique, qui réfutent toute manifestation prophétique après l'époque des apôtres, ou qui sont en désaccord avec les doctrines bibliques présentées par Ellen White, n'acceptent pas l'idée qu'elle mettait en pratique le principe « sola scriptura ». Mais à une époque où le christianisme est partagé concernant les différentes méthodes d'interprétation de la Bible et comporte plus de 45 000 dénominations différentes, en 2014, il est important de souligner que la Bible s'interprète par elle-même. Comme le montre le cours de l'histoire, il est plus facile de parler du principe sola scriptura que de le mettre en pratique. Dans ce contexte compliqué, les écrits d'Ellen White jouent le rôle de filtre prophétique, permettant ainsi de rejeter les fausses interprétations de la Bible et rappelant qu'elle s'interprète par elle-même et peut toucher de nombreuses vies par son message qui transforme. D'après T. Housel Jemison, les écrits d'Ellen White répondent à trois objectifs. 1. Attirer l'attention sur la Bible. 2. Nous aider à la comprendre. Et 3. Nous aider à mettre en pratique les principes bibliques dans notre vie. Comme cela est expliqué dans le document intitulé « Methods of Bible Study » datant de 1986, aussi connu sous le nom de document de Rio de Janeiro, ces commentaires des passages bibliques, quels qu'ils soient, sont un guide nous permettant de comprendre leur sens sans les déformer, ni remplacer la tâche consistant à en faire l'exégèse. Correctement utilisés, les écrits d'Ellen White ne remplaceront jamais la Bible, mais ils nous permettent de mieux comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. la Bible fait autorité en matière de vérité, et l'autorité des écrits d'Ellen White est validée par la Bible du fait de leur conformité avec l'Écriture.